présent à cette table ronde sur l'Allemagne. C'est un mini-événement, parce qu'il y a tellement de choses imaginales, ce sont des mini-événements, mais un mini-événement quand même, d'avoir une table ronde avec quatre écrivains allemands. Et c'est la première fois aux Imaginales qu'on organise une table ronde avec des auteurs d'une nationalité. Et c'est la première fois qu'aux Imaginales, nous avons un pays invité, en l'occurrence l'Allemagne. Je n'ai pas besoin d'expliquer longuement pourquoi nos amis allemands. D'abord parce que c'est une science-fiction, une fantaisie de qualité et qu'on a un certain nombre de traductions qui nous ont permis de le vérifier. Ensuite que l'un des auteurs allemands ici présents a obtenu le prix Imaginal Jeunesse en 2012 pour La Lance et la Lumière, une série qui s'appelle Le Peuple des Nuées, qui est Meyer. Donc bravo, c'était l'an dernier. Et puis aussi parce que on est à un moment où c'est les 50 ans du traité de l'Elysée, accord important franco-allemand. Nos voisins et amis allemands construisent l'Europe avec nous, même si c'est parfois difficile. Et en tout cas, nous avons des relations d'amitié et de proximité aujourd'hui qui sont une des richesses de l'Europe. Et puis aussi le partenariat avec le Festival de Jeunesse de Sarrebruck, qui est une première, et on partage entre autres Nina Blason, qui nous a rejoint hier soir après avoir passé deux jours au Festival de Sarrebruck. On va continuer ces collaborations avec nos amis allemands. Donc à partir de cette année et pour les années à venir, nous aurons un pays invité aux Imaginales. Donc bienvenue au premier pays invité des Imaginales, bienvenue à l'Allemagne, bienvenue aux écrivains allemands aux Imaginales, et rassurez-vous, même quand ils ne seront pas pays invités, nous inviterons toujours régulièrement des écrivains allemands. Donc la première question que je vais poser à nos invités, je vais commencer tout seigneur, tout honneur par Kay Meyer pour son prix Imaginal de l'an dernier. Est-ce que, Kay Meyer, vous pensez qu'il y a une spécificité de la fantaisie allemande, ou est-ce que finalement elle est partie prenante de ce grand mouvement de mondialisation culturelle?
Actually, I think it's quite global, fantasy on a whole. And a lot of German fantasy writers have began to write fantasy after the Lord of the Rings movies in 2001, and a lot of them began to write about dwarves and orcs and elves and all that stuff. And it's probably the same here in France, I'm not sure. Although now there is a tendency to write paranormal romance and urban fantasy, which are the usual trends everywhere in the world. So I don't think there's a very there's a specialty to German fantasy writers. No, I don't think so.
Je pense que le courant de la fantasy est plutôt global et en fait beaucoup d'auteurs de fantasy allemands ont commencé à en écrire après les films du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire en 2001. Et donc beaucoup d'entre eux utilisent des nains, des orques, des elfes, etc. Je ne sais pas si c'est la même chose ici peut-être. Aujourd'hui, ces auteurs maintenant se sont tournés plutôt vers la bitlit, la fantasy urbaine, etc. Donc ils sont globalement les tendances qu'on a un peu partout. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une spécificité envers la fantasy allemande plus spécifiquement.
Un autre auteur allemand qu'on apprécie tout particulièrement, Andreas Eschbach, tout simplement parce que c'est un des grands écrivains allemands de science-fiction, et que quand même c'est quelque chose qu'on peut dire. C'est ensuite un best-seller en Allemagne, c'est un de ceux qui a aidé l'ensemble des écrivains allemands à commencer à intéresser les éditeurs français. Et puis c'est aussi quelqu'un qu'on apprécie, non seulement pour sa gentillesse et sa courtoisie, mais aussi parce qu'il vit en France maintenant, en Bretagne, une région qui m'est quand même chère, comme les Vosges, parce que si je suis vosgienne maintenant de cœur, je suis bretonne, vous allez tout savoir, de naissance, et quelque part, je me dis que c'est une double raison d'inviter notre ami Andreas. Alors, Andreas Eschbach, est-ce que vous partagez l'analyse que vient de faire Kay Meyer? Est-ce que pour vous, la science-fiction allemande, on l'a vu pour la fantasy, elle s'inscrit dans ce mouvement de mondialisation culturelle, ou est-ce que quand même elle aurait des spécificités dans ses thèmes ou dans ses interrogations?
Je pense pour la science-fiction, c'est peut-être une autre chose, parce qu'il y a des vraies traces dans la science-fiction à partir de Kurt Laßwitz, qui était dans la même génération que Jules Verne, une des grandes sources de science-fiction. C'est peut-être une différence, mais ce qu'on observe, c'est bien sûr une orientation vers des sujets traités par des autres auteurs, notamment des auteurs américains et anglais, qui sont bien sûr une voix très forte dans le genre. Mais pour vraiment définir les différences, il faut peut-être demander à une scientiste, une linguiste ou chose comme ça, pas un auteur. Un auteur, c'est il peut produire, mais il ne peut pas analyser vraiment les textes.
Prudent, vous avez vu le rétablissement astucieux d'Andreas, merci beaucoup. Question, la même question que je pose maintenant à Nina Blason.
Ja, ich kann natürlich auch nicht für die ganze deutsche Literatur sprechen. Die Tendenz, die ich in meinem Genre speziell, das ist Jugendbuch, Kinder- und Jugendbuch, auch Romantasy feststelle, ist, dass es doch sehr, da würde ich Kai Meier recht geben, doch sehr international ist. Also dass es eine starke Orientierung gibt zu amerikanischen Bestsellern auch, wo schon dran angelehnt wird. Es gibt aber kleinere Strömungen, was ich persönlich auch sehr gerne lese, wo doch was sehr Spezielles ist, wo zum Beispiel deutsche Städte für die Urban Fantasy als Schauplatz benutzt werden, wo deutsche, ja, Kai Meier hat es ja auch vorgemacht, die Gebrüder Grimm zum Beispiel auftreten lässt, also wo es schon, oh, Entschuldigung, wo es schon einzelne Strömungen gibt, die sehr speziell sind. Ansonsten würde ich es eher international sehen.
Eh bien, je rejoindrai mes camarades allemands pardon, pour dire que dans ce domaine, il n'y a pas véritablement de spécificité allemande. Moi, je suis surtout spécialisée dans la littérature de jeunesse et de jeunes adultes. Et comme Kai Meier le disait bien, dans ce genre de littérature, finalement, on remarquera que c'est plutôt international, à l'échelle internationale. Il y a bien sûr de petits courants différents, des lieux différents, mais il n'y a pas vraiment de grandes différences entre les littératures internationales.
Christophe Lode, vous êtes présent à Épinal pour la première fois. Vous êtes là pour un premier roman traduit en France aux éditions Anne d'Harcourt. Bazera, le sceptre de Salomon. Il s'agit d'un roman, contrairement à vos confrères qui ont écrit des romans fantastiques, de fantasy ou de science-fiction, il s'agit apparemment d'un roman historique. En tout cas, dans toute la première moitié, même un peu au-delà du roman, on est complètement dans le roman historique. Je résume, c'est un chevalier lorrain, bah oui, petit clin d'œil, et qui s'en va, qui va passer à Rome, qui va partir en Terre Sainte et ailleurs, on ne vous dira pas où. Et dans ce périple, il va arriver plein d'aventures. Nous sommes à la fin des croisades. Les croisades se terminent, en fait. Mais néanmoins, le fantastique ou la fantasy, on pourrait l'interpréter différemment, va surgir à peu près aux deux tiers du roman, même s'il y a des indices qui sont posés avant. Et en fait, ce roman historique est aussi quelque part un roman de fantasy, un roman de fantastique. Et il faut préciser, ça sera ma dernière explication, que Christophe Lode, dont le roman m'a beaucoup impressionné, puisque les autres écrivains ici présents ont déjà soit un prix littéraire donné aux Imaginales, soit déjà plusieurs romans traduits en France, Christophe Lode est aussi dans son pays un écrivain déjà reconnu. Il a 7 romans derrière lui qui ont fort bien marché, dont certains en rapport aux romans historiques et d'autres sont des romans de fantasy. Voilà, petite présentation. Donc, en prenant en compte cette précision, Christophe Lode, est-ce que, à la fois la fantasy, vous êtes d'accord avec Kémeyer, elle est globalement la même que dans tous les pays aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et pour le roman historique, est-ce que c'est aussi la même chose, ou est-ce qu'il y a une spécificité allemande du roman historique ?
I'm afraid I can't add here very much because I think actually I think fantasy and science fiction are is a global genre, and the influences of many writers of my age are British American authors like George Martin is quite important, and Ken Follett, Tolkien of course, Michael Moorcock. So I don't think there's really a German fantasy genre, and I think it's in the historical genre it's quite different. But I would not consider my novel a historical novel. It's a combination of historical genre and fantasy genre, but I think it's more fantasy genre. It plays in the Middle Ages, but it has a lot of magical elements, mystical elements. So it's definitely more fantasy. And my personal influences are also more in more English and American authors. So I totally agree with the others.
En fait, je n'ai pas trop grand-chose à ajouter à la question parce que je suis entièrement d'accord avec mes collègues. Je pense que c'est un genre tout à fait international. Nos références en la matière sont américaines ou anglais. Je pense à George Martin, Ken Follett ou Michael Moorcock, qui sont soit britanniques, soit américains. Donc il n'y a pas vraiment, à mon avis, de spécificité allemande. Je pense que pour ce qui concerne mes romans, ils sont situés au Moyen-Âge et il y a quand même pas mal d'historique dedans, mais aussi également des éléments de magie, de fantasy. Et donc je pense que nos références étant plutôt anglaises ou américaines, effectivement, il n'y a pas vraiment de spécificité allemande.
Bien, ben voilà, réponse claire qui nous permet déjà de situer le fait que les auteurs de fantasy, de fantastique, de science-fiction et de romans historiques venus d'Allemagne se considèrent comme partie prenante d'un genre et deux genres littéraires aujourd'hui clairement mondialisés. C'est donc plus des personnalités, des tons d'écrivains qu'on va pouvoir commencer à découvrir. Alors on va peut-être commencer par tout simplement Andreas Eschbach, En panne sèche, un petit extrait pour donner une petite idée des thèmes qui peuvent être développés dans sa science-fiction. Même la dernière goutte d'essence permet encore d'accélérer. Évidemment, Marcus Westermann ne pouvait pas savoir qu'il était sur le point d'en faire l'expérience. Il se trouvait sur l'Interstate 80, juste derrière le pont qui enjambe la Susquehanna, et désirait seulement doubler ce putain de camion qui faisait du 47 miles à l'heure avec une constance désespérante. Il s'engagea donc sur la voie de gauche. Il pleuvait, et il tenait son portable contre son oreille. « Attendez, attendez, écoutez-moi » cria-t-il. « Ne raccrochez pas. Croyez-moi, Mr. Taggart attend mon coup de téléphone. »« C'est possible, » dit une voix de femme à l'autre bout du fil. « Seulement, comme je vous ai dit, il n'est pas dans nos bureaux pour le moment. » Les essuie-glaces luttaient contre les trompes d'eau projetées par les pneus imposants du camion. Le regard de Marcus tomba sur l'aiguille du compteur. Doucement, se rappela-t-il à l'ordre, la vitesse était limitée à 55 miles à l'heure. La police le recherchait. Ce n'était vraiment pas la peine de se faire remarquer en roulant trop vite. « Écoutez, dit-il, je sais bien que vous n'êtes pas une vraie société américaine de fruits et légumes et que Mr. Taggart n'est pas non plus directeur des ventes. Cependant, il a très certainement un portable dans sa poche. Son numéro de portable est confidentiel et... » »« Oui, oui, bien sûr, mais je vous en prie, madame. Je parie que mon nom figure dans son répertoire avec un commentaire du genre me passer à tout moment. » Le camion semblait interminable. Est-ce qu'il accélérait pour l'empêcher de doubler? Pourquoi ça? Marcus appuya plus fort sur la pédale. « Vérifiez une dernière fois, s'il vous plaît, c'est très, très important. » Elle mormonna quelques mots, puis il l'entendit tapoter sur un clavier. « Ah, quand même !» Dans le rétroviseur, il aperçut un malade qui fonçait sur la voie de gauche en lui adressant de loin des appels de phare. Marcus Westermann appuya sur le champignon. Mais la voiture ne réagit pas. Aucune pression du dos contre le siège, aucune réponse, même quand il eut le pied au plancher. Et d'une certaine manière... La voiture ne produisait pas le son qu'elle aurait dû. Marcus comprit avec un soudain effroi qu'il entendait seulement les pneus rouler sur le revêtement humide, qu'il n'entendait plus le moteur. « Mr. Westman, » dit la voix dans l'écouteur, « je vous passe maintenant, Mr. Taggart. »« Je le rappelle. » Marcus jeta son portable sur le siège du passager, serra à toute vitesse la clé entre ses doigts, la tourna, entendit le démarreur, mais le moteur ne se mit pas en marche. La chose, putain de merde, il avait toujours su qu'elle était cassée, qu'elle affichait n'importe quoi, bref, que c'était une cochonnerie électronique. Mais elle indiquait à moitié plein, nom d'un chien, elle ne pouvait pas indiquer à moitié plein, et après, Est-ce qu'il avait bien remis le compteur à zéro à la station-service? Non, merde, le réservoir est tout bonnement vide. Un moment génial. Le camion à côté de lui, d'un blanc luisant, interminable et grand comme une montagne, poursuivait imperturbablement sa trajectoire, telle la lune dans le ciel, normal. Le chauffeur ne se doutait même pas d'un problème. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs? Et la voiture derrière lui, de plus en plus proche, lui tapait sur le système. Il s'agissait d'un gros 4x4 rouge avec toute une batterie de phare sur le pare-buffle et un chauffeur qui savait s'en faire vivre. Le pur bonheur, quoi. L'automobile, c'est quand même une belle invention, Andreas Sechbach. Dans quel univers ça se situe? En panne sèche.
Dans notre réalité, c'est notre avenir.
Allez, ne nous laissez pas comme ça, en panne sèche, dites-nous un peu plus.
Bon, ce sont les premières lignes du roman et il joue avec un motif qui est dans le roman et c'est que les réserves de fuel, de pétrole dans le monde ne sont pas tellement grandes comme on pense parce que il y a beaucoup des mensonges et des choses comme ça autour de cette profession. Et l'idée du roman, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le pétrole s'arrête d'une semaine à l'autre, ce qui se passe dans le roman. Et c'est le même motif. On pense, on en a avec beaucoup d'essence ou pétrole, et tout d'un coup, on comprend, non, c'est fini, et qu'est-ce qui se passe après?
Justement, la question que je voudrais vous poser, Andreas Sechbach, c'est... contrairement à certains de vos collègues qui font de la fantasy, fantastique, de romans historiques, vous avez vraiment choisi de vous ancrer dans la science-fiction. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement dans le genre science-fiction?
Je ne peux pas dire que c'est le genre qui m'intéresse. Non, oui, c'est le genre m'a intéressé depuis jeune âge. Et bon, c'était une... c'était plus grand que le monde qu'on connaît. Il y a des autres planètes, des autres galaxies, des autres univers à découvrir. Ça, pour lire, c'est plus intéressant que des romans qui jouent dans les petites rues de notre voisinage. Et ce qui m'intéresse à la science-fiction... mais aussi l'aspect de l'avenir. Alors, si je me force de trouver un motto pour ce que je fais, c'est je m'intéresse à l'avenir de l'humanité. Et si c'est science-fiction, bon. Si c'est autre chose, aussi bon.
Très bien. On va partir maintenant avec un autre univers, avec celui de Kémeyer. Et là aussi, la meilleure façon d'interroger un auteur, je pense, c'est d'entrer tout simplement dans le texte. Le segment de tête du monstre se glissa dans ses traînées de poussière, puis apparut juste devant eux. Quelle que soit la façon dont il leur avait barré la route, et dans ce labyrinthe, cela n'avait probablement rien eu de difficile, il était plus rapide, plus grand et plus fort qu'eux. Nugua savait tout aussi bien que Lee qu'il était vain de chercher encore à s'enfuir. Vu de près, la surface du crâne monstrueux faisait encore plus nettement l'effet d'un dôme de sable capable de prendre toutes les formes. Nugua l'avait déjà vu se métamorphoser en tentacule, puis en une profonde gueule en entonnoir avec ou sans dents. Mais, maintenant que la tête se tenait devant eux de plus de 4 fois la taille d'un Nugua, elle se montrait de nouveau parfaitement lisse. Seul quelque chose s'agitait sous la surface, un doux mouvement peu à peu transformé en onde tremblante. La créature ne les attaquait pas encore. Pourtant, en cet instant, elle aurait pu aisément les broyer. Quand Lee redéposa Nugua et se planta devant elle avec sa lance pour la protéger, il ne se trouvait plus qu'à moins de 10 mètres du segment de tête du monstre géant. Partout, les rois dragons, qu'est-ce que c'est que ça? terrifiée et néanmoins beaucoup trop curieuse, elle pointa le nez derrière le dos de lit. « Il va nous le dire tout de suite. Nous le dire. Tu crois qu'il va nous parler, ce machin ?» Les secousses qui parcouraient la tête sableuse cessèrent et une nouvelle forme bombée apparut, un visage humain. 2, 3 ou 4 mètres de haut, les traits androgynes, avec de grands yeux sans pupilles. Ce n'était que la grossière imitation d'un être humain, mais tout à fait convenable pour un mille pattes. « Vous ne pouvez pas m'échapper, » dit le visage d'une voix rocailleuse. Le mouvement des mâchoires, mal réglées, ressemblait à celui d'une marionnette. Les grands pieds de lit étaient fermement plantés sur le sol, comme des socles de pierre. Nugo a compris qu'il ne reculerait plus d'un pas. « Tu es un Xian, » constata le mille pattes. Ses pattes antérieures sortaient directement des carapaces de chitine derrière le segment de tête. Elles vibraient d'excitation. Mon flair me dit que tu es un Xian. Alors, tu sais, comme affrontant, tu attaques les dieux eux-mêmes. Un bruit de crécelle désagréable franchit les lèvres incolores. S'il s'agitait de l'imitation d'un rire humain, elle était fort mauvaise. Je suis la valeur d'âme. J'ai englouti beaucoup de dieux quand ils déambulaient encore sur la terre, en chair et en os. Qu'est-ce que c'est que ce monde et ce monstre dans la lance et la lumière qu'est meilleur ?
Most of all, I wanted to tell an exciting adventure story, a high fantasy story, but I didn't want to go the usual way to set it in some kind of medieval imaginary world. So I decided to set it in ancient China, which is probably based on my love of martial arts movies and stuff like that. So I could use certain things from traditional European or American fantasy literature, but use a fresh background. And so that was the main reason why I chose China. I didn't know anything about China before I wrote the book, so I had to do a lot of research and had to choose a European perspective for my hero. The protagonist of the book is European, he's Italian, and he comes to China and doesn't know anything about China. So that was one trick I used to explain China to the reader and to myself. And some of the creatures used in the book, because you asked about the monster, some of the creatures that I used in the book are from ancient Chinese mythology.
Bah, à l'origine, l'intention que j'avais, c'était de raconter une aventure qui soit enthousiasmante et cette sorte de high fantasy qui soit excitante. Mais j'avais pas envie de la placer dans un monde médiéval qui soit habituel, tel qu'on a l'habitude de le voir. Alors, j'ai décidé de changer de décor et de le placer en Chine ancienne. Je suppose que cette envie est fondée sur mon amour pour les films d'arts martiaux tels qu'on les voit et qu'on les imagine. Mais ça me permettait donc ce mélange me permettait d'utiliser aussi les éléments de la fantasy américaine et européenne traditionnelle. Je voulais un fond, un background qui soit frais et un peu nouveau pour ça, je me suis tourné vers la Chine. Mais j'avoue que je ne connaissais strictement rien, donc il a fallu que je fasse pas mal de recherches. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi une perspective européenne pour raconter cette histoire, puisque mon protagoniste, mon héros, n'est pas chinois, il est italien. Il va en Chine et n'y connaît rien non plus sur la Chine. Donc c'était un peu une astuce pour me permettre de m'expliquer la Chine à moi-même ainsi qu'à mon lecteur. Pour revenir à l'autre élément de la question qui était un peu sur cette créature, eh bien tout simplement cette forme m'a permis d'utiliser des créatures des mythes de la Chine ancienne et le dévoreur d'âme en fait partie.
Un autre extrait, une autre plongée, Nina Blason, La nuit des Panthéras. On va pas tout révéler, c'est pas tout à fait des vampires, mais c'est quand même des créatures qu'on n'aime peut-être pas rencontrer au coin d'un bois. Je cherchais bêtement ma clé dans ma veste tout en évaluant mes chances de lui échapper en détalant vers le sud. Sans lever la tête, ni allonger le pas, Maurice se dirigeait pourtant droit sur moi. Du coup, je compris qu'il avait déjà perçu ma présence depuis longtemps. J'oubliais parfois que les autres voyaient, flairaient, entendaient beaucoup mieux que moi. J'avais 5 secondes pour me décider. Si je filais tout de suite, il me laisserait partir, mais il découvrirait peut-être la fille. Si je le provoquais, Zoé se retournerait sur nous et verrait 2 hommes se sauter à la gorge. Elle sortirait probablement son portable, appellerait la police. Alors Maurice la remarquerait. Il ne l'attraperait pas maintenant, mais dans 1 ou 2 nuits. Il s'agissait de gagner quelques secondes. Je ralentis mon allure, fis mine de chercher quelque chose dans ma poche et changeai de trottoir. Le sang bruissait dans mes oreilles. Ne pas regarder là-bas. Maurice surgit en un clin d'œil au coin de la rue. Je ne l'avais pas entendu venir. « Tiens donc, grogna-t-il, de la visite ?» Une odeur de peau sale me monta au nez, en même temps qu'une note fulgurante et menaçante. « Mauvaise partie de la ville, disait-elle. Mauvais moment, mauvais endroit, mon gars. »« Du calme, dis-je en levant les mains. Il y a un problème, mec ?» Je vis ses yeux scintiller. Pendant quelques secondes, mon calme l'intrigua, et il douta sans doute de sa première impression. Il chercha à me remettre, apparemment sans succès. Il ne me connaissait pas. Ce n'était pas pour rien que je quittais rarement mon quartier. Ici, je pouvais passer pour un type suspect qui évitait son regard. Je repartis lentement en arrière et fis un pas vers le coin de rue suivant, puis un autre encore. « Je cherche seulement le métro, » dis-je d'un ton badin. « Je m'en vais, je veux pas d'embrouille. » Je ne sais pas ce qui m'avait trahi, le ton de ma voix, un mouvement ou une réclame au néon qui se reflétait dans mes yeux. « Pour ça, il faudrait sacrément courir vite, » feula Maurice en se ramassant. « C'est l'un de ces instants où l'on voudrait pouvoir rembobiner le film. 20 secondes, pas plus. J'aurais dû faire peur à Zoé. » Lui faire croire qu'elle était réellement poursuivie. Elle aurait alors marché plus vite, nous aurions évité Maurice, et je ne serais pas maintenant dans le pétrin. Par-dessus ses épaules, je vis que Zoé s'engouffrait dans l'entrée d'une maison à l'autre bout de la rue. C'était un immeuble fraîchement crépi, en face de l'arrêt de bus, coincé entre de vieilles constructions en briques, on eût dit la dernière dansenne d'une mâchoire en ruine. Je perçus d'une manière suraiguë le tintement d'un trousseau de clés, puis la porte se referma, Zoé était chez elle, en sécurité, tant mieux pour elle. Tant pis pour moi, car maintenant je vis tout ce qu'Hervès avait omis de me dire sur Maurice Ponsan. Mon taux d'adrénaline grimpa en flèche et mes muscles s'embrasèrent. Comme au ralenti, je m'aperçus que j'étais en train de fuir à toute vitesse. Au dernier regard que je jetais derrière moi, je vis le chantier de construction. À côté de la maison de Zoé, quelques grues endormies veillaient comme un troupeau de girafes métalliques sur de profondes excavations. Joli spectacle, oui, et à peu près le dernier que je perçus. Les rues sont dangereuses dans vos univers, Nina Blason. Est-ce que vous pouvez, justement, pour que nos lecteurs, nous raconter évidemment l'histoire, mais décrire un peu le monde dans lequel le lecteur entre dans les premières pages de votre roman?
Es ist eine ganz normale Großstadt, keine bestimmte Großstadt, hat keinen Namen. Und dort gibt es Menschen, die anders sind als die anderen. Sie nennen sich die Pantera. Oder Pantera. Es ist eine Art von, man kennt es als Gestaltwandler. Ich wollte aber nicht, dass es wie bei einem Werwolf oder einem Katzenmenschen so ist, dass sie die Gestalt wandeln, sondern ich habe es umgedreht. Das sind sozusagen Menschenkatzen, also Menschen, die äußerlich Menschen bleiben, aber innerlich die Instinkte von Großkatzen haben und ähnlich reagieren. Und so eine Mischung sind zwischen menschlichem Anteil und Katzenanteil mit Revierverhalten, mit Verhalten. Es sind verschiedene Arten. Einer hat einen sogenannten Schatten, der ist ein Tiger, der braucht mehr Revier und verteidigt es. Die ganze Stadt ist aufgeteilt in diese Reviere. Und wenn man so einem Panthera begegnet oder wenn sie sich untereinander begegnen, wird es sehr kritisch. Und das Schlimme ist, sie sind mitten unter uns. Man kann sie nicht unterscheiden anhand, wie sie aussehen.
Oui, en fait, l'action se passe dans une grande ville normale, dans une grande ville qui n'a pas de nom, une grande ville anonyme qui ressemble à toutes les grandes villes. Il se trouve que dans cette ville, il y a des personnes, des gens qui sont différents des autres, mais ça ne se voit pas extérieurement car ils ont une apparence humaine. Ce sont en fait ce qu'on pourrait appeler des métamorphes, mais j'ai traité cette histoire de métamorphisme de façon différente. Extérieurement, donc, ils ont une apparence humaine, mais intérieurement, ce sont des prédateurs, ce sont des tigres, des panthères, et ils ont les réflexes, donc, de ces animaux. La ville entière est divisée en territoires, comme les chats ont des territoires, et il est vraiment déconseillé de rentrer dans le territoire d'un autre, de quitter son propre territoire, car dès l'instant où on rencontre ou on tombe sur un ennemi, en quelque sorte, la situation devient vraiment critique.
Nena Blason, est-ce qu'en choisissant ces métamorphes, qui est d'ailleurs plutôt historiquement un thème de science-fiction, mais dans ce monde de fantasy, est-ce qu'en quelque sorte vous n'avez pas voulu traiter de quelque façon le thème des vampires, mais quand même de façon un peu différente? Est-ce que vos personnages ne jouent pas le rôle des vampires dans toute une série de romans, par exemple, de la fantasy urbaine américaine? Est-ce que, en faisant ce choix-là, vous n'avez pas voulu traiter un peu la même thématique, mais de façon un peu peut-être originale, personnelle?
Also hier ging es tatsächlich nicht um die Vampire, denn diese Menschen, Katzen, Katzenmenschen nehmen den Menschen nichts weg. Also sie saugen kein Leben, kein Blut. Es ging mir eher um einen anderen Mythos, den es ja auch schon lange gibt. Und wenn Sie sich erinnern, 1944, glaube ich, oder war das ein Schwarz-Weiß-Film. In der Hauptrolle ist eine Dame namens Simone Simon. Katzenmenschen. Und dort ist genau das thematisiert, nämlich dieses, dass man nicht weiß, ist es jetzt Einbildung, dass jemand sich in einen Panther verwandelt, diese Frau, oder sind die Schatten der Großstadt, ist das eine Täuschung oder macht sie das wirklich? Und das hat mich sehr fasziniert. Das hat mit den Vampiren nichts zu tun, eher mit diesen Gestaltwandlern wie Werwölfen und eben Katzenmenschen.
Oui, en fait, ce ne sont pas vraiment des vampires dans la mesure où ils ne prennent rien aux autres, ils ne prennent pas de sang, ils ne prennent pas de vie. En fait, j'ai voulu traiter un thème très ancien, comme dans un film, un vieux film en noir et blanc. Michel Simon, d'Arstelorine, Simone Simon, la féline. Ah ben voilà, je connais pas. Donc
Maurice Tourneur.
Voilà.
Jacques Tourneur.
Où il y a effectivement des humains qui sont en fait des chats, et on voit se transformer une femme en panthère, et on se demande si c'est véritablement la réalité, ou si c'est l'imagination. Ce sont simplement les ombres de la ville qui font penser qu'il y a effectivement une transformation.
On va partir ailleurs, on va partir à une autre époque, la fin des croisades. Christophe Flood basera le sceptre de Salomon. Pareil, on va rentrer dans le roman par un petit extrait. « Que savez-vous d'Athanase d'Alexandrie ? » demanda-t-il en s'asseyant. « C'est la première fois que j'entends ce nom, » répondit Raoul. L'esquisse d'un sourire éclaira le visage du cardinal. « Je n'en crois rien, surtout si vous avez eu un précepteur digne de ce nom. Je crains de m'être plus intéressé au tir à l'arc qu'au livre, éminence. » Athanase devint évêque d'Alexandrie après la grande persécution des chrétiens. C'est à lui que nous devons la Vita Antoni, l'histoire de la vie de saint Antoine. Raoul se taisait, espérant que son hôte en vienne enfin à lui exposer ce qu'il attendait de lui. Voici la deuxième partie de la Vita. Pendant près de 1000 ans, on l'a cru perdue. Jusqu'à ce que l'original, il y a quelques mois, parvienne aux mains de l'Église. Le Saint-Père désire que cette copie soit portée à Jérusalem pour être remise à un ami du Saint-Siège. L'un de mes hommes en a été chargé, il parle parfaitement l'arabe et connaît la Terre Sainte, mais ce n'est qu'un scribe. Je doute qu'il soit capable d'affronter les dangers que représente ce voyage. « Vous voulez que je l'accompagne ?» dit Raoul d'une voix hésitante. Le prélat acquiesça. « Dieu vous a envoyé à Rome à dessein, Basera. J'en suis convaincu. J'ai prié pour qu'on m'envoie un chevalier tel que vous. » Voilà, les choses sont posées. On est tout au début du roman. Le personnage est en chemin. On ne sait pas trop vers où. En tout cas, lui-même ne le sait pas au début. Et il est arrivé à Rome. Il est, après quelques aventures déjà, hébergé par un cardinal. Et tout de suite, on lui propose une mission. Est-ce que vous pouvez nous dire, Christophe Flood, pourquoi un écrivain allemand a-t-il imaginé un roman historique qui débute en Lorraine avec un chevalier Laura.
Yes. Why does a German writer write about France? To be honest, Germany does not inspire me. I sometimes think Germany is a bit boring. I need more exotic things that are not really there in Germany. So I thought about a story somewhere else. It starts in France. It's going to Italy, to Rome, to Constantinople, to Jerusalem, Armenia in the end. Because that's a kind of Indiana Jones story that I love very much.
Pourquoi est-ce qu'un auteur allemand parle de la France? Eh bien, toute honnêteté, je dirais que l'Allemagne est profondément ennuyeuse et ne m'inspire pas beaucoup. Et donc, c'est pourquoi j'ai été à la recherche d'un peu plus d'exotisme et j'ai choisi la France. C'est vrai que mon personnage va bien voyager. Il va partir de France pour aller en Italie, à Rome. Il va se retrouver en Terre Sainte. Il ira même en Arménie à la fin. Mais c'est un petit peu une quête à la Indiana Jones et ça me plaisait bien.
Actually, I have written quite a lot of historical novels set in Germany. So
Germany. I did not want to insult you. I really like your books.
No. No, but I think you can do it. There's a lot of stuff you can exploit for your novels. Like I did it with the Brothers Grimm, for example, which is just a very German theme, and others as well. So we probably have that, but I think all of us are looking for exotic locations to set our books in. So I think that's one of the reasons why all of us choose international locations for the books.
Fantasy is a lot about sense of wonder, and it's. I'm sorry.
Donc, oui, en fait, en ce qui me concerne, j'ai écrit un certain nombre de romans historiques qui, pour le coup, se passent en Allemagne. Christophe Lode a répondu à l'instant, oui, en plus, j'aime beaucoup vos livres. Kay reprend en disant que mes jeux, on a ce terreau en Allemagne autour des contes, par exemple, et du folklore. Mais je pense que le problème, finalement, qu'on a tous, c'est qu'on cherche tout simplement des lieux et des décors exotiques pour placer. Pour placer nos livres, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, tous autant qu'on est, on va choisir des lieux et des décors internationaux pour nos livres.
Deuxième extrait.
No, I think fantasy is a lot about sense of wonder, to make the readers wonder about the things that happen, and I need. To create that sense of wonder, I need special places, special characters, and for me, actually, it's easier to find them on exotic places.
Je pense qu'en fantasy, le côté merveilleux joue beaucoup et est très très important, et j'ai envie que le lecteur soit curieux. Et pour créer ce sens du merveilleux, pour créer cet émerveillement, eh bien, moi, j'ai besoin de lieux exotiques.
Justement, on va voir si l'exotisme est au rendez-vous. Petit extrait encore du roman de Christophe Lode. Où avez-vous appris toutes ces langues? Demanda Raoul. Gaspard ricana. Le latin et le grec chez les dominicains de Luc. Alors Raoul sourit aussi. Vous y étiez novice 2 ans. Ensuite, ils m'ont jeté dehors. J'avais quelques difficultés avec l'obéissance. Et le français et l'arabe, en Terre Sainte. J'ai servi un chevalier toulousain durant 3 ans à Saint-Jean d'Acre. Raoul se redressa avec surprise. Acre était tombé en 1291, voilà déjà 12 ans. Gaspard devait donc être bien plus âgé que les 25 ans qu'il lui avait attribués lors de leur première rencontre. Il était difficile de croire que cet homme au visage lunaire pouvait avoir 30 ou 32 ans. « Mon père était également à Saint-Jean d'Acre, dit-il. Comment s'appelait-il ? Gérard de Bazera. Vous ne pouvez pas l'avoir connu. Il est parti en croisade en 71 et n'y est resté que 2 ans. » 2 ans suffisent en Palestine, dit Gaspard. Il ferma les yeux, ne voulant plus en parler, se mit à fredonner tout bas une mélodie inconnue de Raoul. La tempête semblait être apaisée. Le bateau ne tanguait plus autant. Raoul s'allongea et fixa le plafond maculé. Son père avait rêvé sa vie dû renfouler le sol de Jérusalem, ne fût-ce qu'une fois. À l'époque, la ville sainte était depuis longtemps déjà aux mains des Sarrasins, et tenter de s'en approcher eût signifié la mort pour un chevalier chrétien en ces temps de guerre. Qu'aurait-il pensé du voyage de son dernier né ? Il aurait été rempli de fierté, m'aurait traité de fou, songea Raoul en riant intérieurement. Les planches de l'Élysion craquèrent en grinçant. Quelqu'un marchait sur le pont, des pas sourds et réguliers. « Quelle sorte de péché était-ce ? » demanda brusquement Gaspard. Raoul tourna la tête et le fixa. « Quoi ? Les péchés, ceux qui vous ont conduit à Rome. Pourquoi voulez-vous le savoir ? Eh bien, ça m'intéresse. » Raoul réfléchit. « Rien d'important, magie noire et fornication avec des boucs. » Un peu mécréant, votre personnage, il est croyant, comme évidemment tous les héros de cette époque, mais quand même, il a le sens de l'humour, parce qu'on ne plaisantait pas à cette époque avec la fornication réelle ou supposée avec des boucs, et encore moins avec la magie noire.
Yes, I'm a German, I don't have any humor I know of. No. This scene is a very important dialogue in the book. It's about the two main characters, about Raoul de Bazerin, the main character, and his companion, Jasper, and they are on a ship, and there's a storm, and they're talking the whole night, and they learn to know each other. And I think humor is a great tool to bond readers with characters, and that's what I tried here.
C'est un dialogue très très important dans le livre, parce que c'est Raoul et Gaspard qui font un voyage en bateau, ce sont les deux principaux personnages du roman, et ils apprennent à se connaître. Donc il y a une tempête, c'est la nuit, et ils s'échangent énormément pendant cette tempête, et ils apprennent à se connaître. Et pour moi, l'humour est très important, parce que c'est ce qui permet de créer le lien avec le lecteur.
On va voir s'il y a aussi de l'humour chez Nina Blason. Un très court extrait parce que le temps passe, on ne se rend pas compte et il va falloir bientôt céder la place au débat suivant. Je ne me retournais pas au moment du départ, mais je sentis encore longtemps dans mon dos le regard de Jelka. Je savais qu'elle ne me quitterait pas des yeux tant que je n'aurais pas disparu de sa vue, car finalement, et dans ma misère j'en ressentis une satisfaction cruelle, elle aussi avait perdu quelque chose. Dès que je serais parti, tout ce qui resterait de moi ne serait plus qu'une tache blanche au mur en forme de croix. Siméon chevauchait à mon côté. Je sentais son inquiétude, mais je levais fièrement le menton en m'efforçant de rester en selle. Des plans d'évasion me passaient par la tête, quand bien même je savais que de telles pensées n'étaient que des chimères. J'étais une jeune fille qui traversait le territoire de Lazare pour, au bout du voyage, partager le lit d'un inconnu, comme de nombreuses femmes en avaient déjà fait l'expérience. En m'enfuyant, je troquerais simplement ce sort contre un autre, celui de me faire enlever par des bandits. Les hommes avançaient en silence. On n'entendait que le bruit des sabots et le renaclement des chevaux. Il me semblait même que les tilleuls avaient cessé de bruire au vent. Jamais encore je ne m'étais autant éloigné de la maison. Je ne reconnaissais déjà plus les montagnes. Et puis je perçus soudain autre chose. Un bruit de sabots, au lointain, un appel. Les quatre hommes, jetèrent un regard en arrière et poussèrent les chevaux. Jovan s'assura d'un coup d'œil rapide que je me tenais bien dans les étriers, puis fit un bref signe de tête. Les deux autres hommes s'approchèrent de Simon et de moi. Un étrier heurta le mien dans un tâtement métallique. « Penche-toi en avant et accroche-toi bien à la crinière », me glissa Siméon en me retirant les rênes de la main. Alors tout se passa d'un coup, le bruit des pierres qui dévalaient, le reniflement effrayé des chevaux et cette terrible secousse quand ma monture partit en flèche. Je criais d'effroi, puis je me cramponnais de toutes mes forces à la crinière en me penchant en avant. Les étriers m'entraient douloureusement dans les pieds, le sol pierreux défilait si vite sous moi que j'en eus le vertige. Jamais de ma vie je ne m'étais encore déplacé aussi vite. Derrière moi j'entendais des cris et des bruits de sabots, mais pour rien au monde je ne me serais retourné. Jovan chevauchait sur mon flanc gauche en riant. Ses yeux scintillaient et il ne dirigeait son cheval que d'une main. « Allez, ordonnait-il, plus vite !» Eh bien, quelle cavalcade pour une jeune fille qu'on s'apprête à livrer au mal. Au deux sens du terme. Vous aimez les histoires d'action, visiblement, puisque là, on est plutôt au pays des vampires. Hein, c'est plutôt de très mauvaises mains que va tomber votre héroïne, Nina Blason. J'ai quand même remarqué que dans ce roman qui se situe dans le passé, vous avez évoqué quand même dans ce passage le sort des femmes. Mariée de force à un homme qu'on ne connaît pas, ou enlevée par les bandits, ce qui veut dire violée par les bandits. Donc finalement, c'était pas très drôle de vivre à l'époque où vous racontez votre histoire.
Nein, das ist ja La Femme du Vampire. Das ist der historische Roman. Es sieht aus wie ein Fantasy-Roman, ist es aber nicht, denn es geht um den historischen Vampir-Glauben, den Aberglauben. Und es spielt ja im 18. Jahrhundert in Serbien. Und ich habe recherchiert, auch vor Ort, wie damals die Stellung der Frau auch war. Ich habe in alten Sprichwortsammlungen Sätze gefunden, da wird einem heute schlecht, wenn man sie liest. Also es gibt ein Sprichwort, das tatsächlich sehr beliebt war dort auf dem Lande, da heißt es, schwing den Stock gegen den Hund, die Tochter aber schlage. Also der Hund wird nicht geschlagen, aber die Tochter. Also das ist original. Und es war nicht unüblich, dass alleine der Vater entschieden hat, wohin seine Tochter verheiratet wird oder an wen. Und zwar mit 13 Jahren. 14 war auch noch in Ordnung, 15 auch. 17 war schon alt. Also 17 war man schon zu alt fürs Heiraten. Und ich habe versucht, diese historische Realität dieses Gebietes, dieser serbischen Region, heute Serbien, darzustellen, auch wenn es schockierend ist, aber es war sehr spannend, es zu recherchieren.
Oui, en fait, ce roman, bien qu'il en ait l'apparence, ne serait-ce que pour la couverture, n'est pas un roman de fantasy. Mais on y rencontre toutes les superstitions d'une région qui est aujourd'hui la Serbie. J'ai fait des recherches sur place et pour me documenter justement sur la façon dont la femme était perçue à l'époque. Et j'ai trouvé des textes incroyables, vraiment à la fois fascinants et à la fois effrayants. Par exemple, j'ai trouvé ce genre de proverbe. Je ne vous le dis pas en allemand, bien sûr, je vais essayer de vous le traduire en français. Manie le bâton contre ton chien, c'est-à-dire agite le bâton, fais-lui voir le bâton, mais frappe ta fille. Alors, à cette époque-là, c'était le père qui décidait souvent pour la fille où elle allait aller, avec qui elle allait se marier. Et à 13 ans, à l'âge de 13 ans, à 17 ans, la fille était déjà trop vieille pour ça, elle était déjà trop âgée, donc il fallait la caser avant. Voilà, c'était la réalité de cette époque-là.
Finalement, être la femme du vampire ou d'un homme qu'on n'a pas choisi, quel est le pire? On s'interrogera en lisant le roman de Nina Blason. Un court extrait, parce que vraiment on va faire du dépassement d'horaire. Andreas Eschbar, Jésus vidéo. Premièrement, dit-il en levant le pouce de la main droite, le squelette a été découvert dans une couche de vieille terre de 2000 ans et intact au moment des fouilles. Deuxièmement, la toile de la bourse révèle l'utilisation de fibres végétales présentes dans ce pays il y a 20 siècles, mais aujourd'hui introuvables. Troisièmement, le second sachet est à l'évidence taillé dans un film plastique dont la couleur semble s'être altérée pour une raison encore indéterminée. Quatrièmement, aussi aberrant que cela paraisse, le papier ayant servi à imprimer la notice donne l'impression d'être lui aussi très ancien. Nous allons ordonner des analyses de teneur en carbone 14 pour dater tous ces matériaux, étoffes, papier, tissus osseux. Mais cela risque de prendre encore quelques temps. Par ailleurs, ajouta le professeur en étudiant le crâne, nous avons découvert des amalgames dentaires. Or, ce type de plombage utilisé pour la première fois en 1847 en France. L'invention était peut-être antérieure et tombée dans l'oubli. Non. Hormis deux dents évidées obturées par un professionnel, le reste de la mâchoire n'est qu'un ramassis de chicots atrocement carriés. Sans compter ceux qui sont tombés. Si cet homme avait eu sous la main, en l'an 50, un praticien aussi à la pointe, il serait retourné chez lui. Et Zénard soupira, se croisa les bras dans le dos et fit quelques pas. Il rebroussa finalement chemin, s'arrêta devant la tombe et regarda les ossements à moitié dégagés qui gisaient en contrebas. Une odeur de poussière brûlante flottait dans l'air, le crâne brillait, éclairé par les spots. Seules ses orbites creuses projetaient des ombres inquiétantes. Vous pensez à un voyage dans le temps, n'est-ce pas? Là, on est vraiment en pleine science-fiction. Je rappelle que Jésus Vidéo est un roman qui a connu un énorme succès en Allemagne et qui a été adapté à la télévision. Même si le roman vaut mieux que le film, il a quand même eu quelques millions de téléspectateurs, et ça n'est pas rien pour un écrivain d'être ainsi connu par le grand public. On va se quitter avec un dernier petit extrait, Christophe Lod, puisque c'est son premier roman traduit en français, alors on va un petit peu insister. Nos autres auteurs sont déjà soit primés, soit reconnus, soit bien publiés, alors vous aurez facilité à rentrer dans leurs univers, mais c'est vrai que c'est toujours un moment important de publier son premier roman dans son pays ou d'avoir son premier roman publié à l'étranger. Sur le chemin de croix, le chevalier pria à Sainte-Anne, puis dans l'église de la flagellation, ainsi que dans chacun des lieux consacrés, sans pour autant trouver la paix intérieure. Sans cesse, un visage d'Albâtre surgissant à la fenêtre d'un palanquin pourpre accompagnait son esprit et chassait les mots de sa prière, et chaque fois elle devait recommencer. Il faisait nuit lorsqu'ils rentrèrent au caravansérail. Raoul partagea le souper avec Baptista et Gaspard, puis se rendit à la salle de bain. Il se lava abondamment dans le cuvier de briques marron foncé et élimina toutes les traces de poussière, de crasse et de sable accumulées depuis son arrivée à Scalon. Gaspard aussi s'était toiletté, comme l'indiquait son odeur, plus précisément la disparition de son odeur. Le Toscan était encore chez Baptista. Les deux hommes profitaient de son absence pour discuter tranquillement du rouleau et de la lettre de Mora. Il sortit, enfila ses sandales et monta les trois marches fissurées qui menaient à la cour intérieure. Les lieux étaient plongés dans l'obscurité, à l'exception des torches qui flambaient près du portail et des fenêtres éclairées des appartements de Baptista. La domesticité, une quinzaine de personnes, avait déjà été se coucher. Les pas et les chuchotements de la patrouille effectuant sa ronde sur les remparts étaient les seuls bruits à venir troubler le caravansérail endormi. En montant l'escalier vers sa chambre, Raoul se reprit et songea à Yada bin Ghassan. Cette brève apparition dans les rues de Jérusalem avait suffi à le désorienter de longues heures. Cela l'irritait. Il se demanda toutefois comment revoir l'égyptienne. Chassa de ta tête, un chevalier de Haute-Lorraine avec la fille d'un seigneur égyptien, c'est absurde. En plus, tu pars dans 2 jours. Et voilà les voyages, comment on rate des rencontres. Merci à nos 4 auteurs allemands d'avoir été présents de cette table ronde. On est vraiment ravis aux Imaginales d'inviter ces écrivains allemands. Et avant de vous inciter à les retrouver sous la bulle du livre et à acheter, à vous faire dédicacer leurs ouvrages, je voulais quand même remercier nos traducteurs, Jocelyne Bourbonnière et Lionel Davoust, qui ont traduit de l'anglais 2 auteurs allemands que je remercie d'avoir accepté d'utiliser une autre langue pour permettre à Nelly Lemaire d'officier aux côtés de Nina Blason. Et bien sûr, nos 4 auteurs allemands sont méritoires, encore plus peut-être André Schesbach qui maintenant maîtrise très bien notre langue. Merci à vous 4.